Hello Alexandre.
Eh bien, ça me fait super plaisir de te recevoir sur ce nouvel épisode de TechSource. Bah, aujourd'hui, tu vas nous vider ta stack, tu viens nous présenter tes sources de veille, Bruno. On va commencer par un vrai ou faux. Vrai ou faux, tu es fier de ta newsletter.
Ah, vrai et faux. En fait, fier, c'est parce que c'est F-I-E-R-E.
Ouais.
Alors, je suis fier de l'avoir féminisé.
C'est ouais, un point intéressant. Tout à fait, ouais.
Et en fait, j'ai trouvé cet acronyme qui correspond aux rubriques dans lesquelles je range eh oui. chaque source. F pour flippant, I pour inspirant, E pour enthousiasmant, RE pour réfléchir ensemble.
Ouais, donc c'est l'acronyme de toutes tes rubriques. Quoi.
Exactement.
On mettra les liens évidemment dans les show notes hein, pour retrouver toute ta newsletter, enfin tes prolix, comme on dit, tu produis beaucoup de contenu, donc il y aura beaucoup de show notes, je pense.
J'ai deux newsletters. Celle-là, c'est celle de ma curation argumentée,
ouais.
qui va être, je pense, le cœur de notre ouais. sujet. La deuxième, elle est spécifique à LinkedIn. C'est tout ce qui est conseils, tips, astuces pour maîtriser l'outil LinkedIn.
Ouais, sans transition, vrai ou faux, LinkedIn n'a plus de secret pour toi?
Alors, faux, il en a encore beaucoup.
Ouais. Mmh.
Et je pense qu'il en a beaucoup pour beaucoup de monde
mmh.
et qu'on essaye tous de comprendre, notamment... le truc au milieu, là, qu'on appelle l'algorithme, qui fait que tout le monde veut parler à l'algorithme, alors que moi, je pense qu'il faut mieux parler à des humains.
Ouais, 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 tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est sûr que ça évolue tout le temps. Tous les jours, quasiment, je vois des récaps hein, des changements dans les algos. Vrai ou faux, tu as une appétence pour le no-code?
Vrai.
Je crois que c'est comme ça qu'on a dû se croiser les premiers temps, dans un groupe qui s'appelle No-Code France, peut-être que...
Ah, c'est possible.
Hein,
on s'est croisé
là-bas. Oui, je pense que moi, j'ai dû t'identifier
d'accord.
super asso aujourd'hui, une asso. Hein, c'est
complètement.
Plus juste un Slack, je crois. C'est
une communauté incroyable.
Incroyable.
Incroyable ouais. d'entraide.
Ouais.
En fait, je me ouais. suis effectivement particulièrement intéressé au no-code. Mmh. J'ai automatisé un outil de travail que j'ai rendu public et j'ai été aidé par des personnes. Mais c'est incroyable l'entraide. Qui sur des sujets en fait où c'est de la presta presque. Hein.
Ouais. Non mais vraiment ça vaut cher.
Ça vaut cher mais c'est une très très belle communauté ouais.
C'est une communauté magnifique qui a évolué et bon on pourra en parler pendant des heures. Je les cite souvent hein, dans les épisodes. On en reparlera. Vrai ou faux, tu as écrit un bouquin.
Vrai.
Mm-hmm.
J'en ai écrit qu'un mais qui a sa quatrième édition.
Hein?
Qui est toujours le même.
Sur LinkedIn.
Ouais. Maîtriser LinkedIn.
D'accord.
Le premier titre était « Développer votre professional branding
ouais. ».
Beaucoup trop tôt. On pourra parler pourquoi professional branding et pas
ah
personal branding.
Ah oui, c'était quelle
branding.
Année c'était
2016.
Ouais, ouais.
2016, j'ai commencé le premier. Et puis, je l'ai mis à jour régulièrement. J'ai eu un peu de retard par rapport à une petite période Covid qui a reculé la sortie de la quatrième édition, qui date de mars, mais de l'année dernière, puisque on
oui.
est en début d'année 24.
Et vrai ou faux, j'ai mis ça, mais alors voilà, parce que je ne trouvais pas de jeu de mots et de sens, mais les réseaux sociaux sont pour toi de la dynamite.
Ah.
Ring a bell.
Ouais, sachant que j'ai travaillé avec Julien Carlier chez Social Dynamite pendant
Social
quelques
dynamite,
années.
Ouais.
Est-ce que c'est de la dynamite? Alors dans quel sens?
Alors là, vraiment, c'était le plaisir du jeu de mots par rapport à Social Dynamite. Hein. Je dois être franc okay. avec toi. Mais ça peut vouloir aussi dire tout ce que...
C'est aussi bien positif que négatif.
Ouais, ouais, ouais.
Et je pense qu'on arrive quand même à une certaine maturité, une certaine prise de recul où on voit tous les effets négatifs des réseaux sociaux
ouais.
et l'impact que ça a sur une forme d'addiction qui n'est pas prête de s'arranger, à mon sens.
Oui, ouais, c'est hyper intéressant l'évolution des réseaux sociaux par rapport à l'info et à tout ce qu'on peut tirer comme signal, comme par rapport au bruit. Enfin, on en parle souvent avec les invités, mais c'est. Tu penses. Allez, digression. Première digression. On y va. Tu penses pas qu'il manque un réseau social? Parce que t'as pas l'impression qu'il y en a qui sont tous.
Alors.
Ils ont arrêté de se réinventer et que finalement il y aurait la place pour un énorme réseau social qui soit plus.
Bah, oui, plus smart, mais lequel plus... Enfin, c'est quoi un réseau social smart?
Je vais
être cash. En
ouais.
fait, à partir du moment où c'est un réseau social,
ouais.
je pense que ça ne peut pas être smart.
Ouais.
Parce que ça va jouer sur les addictions.
D'accord.
Les notifications. Et tous se disent, on devrait les enlever parce que les gens sont focus sur le nombre de likes. ils ont qu'à la désactiver, la fonctionnalité, mais ça ne sert plus leur business. Donc, ils ne le feront pas.
Ils le feront pas.
Donc, c'est compliqué. Les nouveaux qui sortent... là,
qu'ils soient vraiment social, pour le coup.
Ouais, mais à ce moment-là, ce n'est plus un réseau social. Ça devient... ça va être une communauté ou ouais, alors si, mais ce n'est pas le réseau en lui-même. C'est une plateforme qui permet de créer différents... alors réseaux sociaux entre guillemets, mais comme Discord, comme Slack, comme Circle, tous ces réseaux qui permettent de regrouper des gens dans un espace comme on appelle le cozy web, c'est le mot à la mode, qui va permettre à des audiences ou des communautés de se regrouper et de vivre entre elles. Et il n'y a plus cette dimension publique avec l'aura publique, la visibilité publique pour avoir des likes. Donc, est-ce que c'est encore un réseau social? Ou est-ce que c'est une évolution du comportement humain qui veut moins les paillettes,
plus l'intime,
pour une forme de sécurité, je pense, et puis une forme de qualité, je pense aussi.
Ouais, mais ça a l'air de l'intelligence artificielle. Est-ce que les réseaux sociaux vont savoir se réinventer, ou est-ce que il y en a un qui va naître et qui va permettre d'avoir un feed intelligent, de pousser des choses, comme tu dis, de manière plus intime, sur une audience plus intime. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnalités, elles ont 10 ans, quoi. Enfin, 10-15 ans
ouais, mais de qu'est-ce tous. Qui manque quoi. En fait, si tu veux, tu vois que le seul qui s'est un peu réinventé, c'est TikTok.
Ouais.
Parce qu'il fonctionne différemment par rapport à l'algorithme. Mmh. Tous les autres réseaux, tu as un carnet de contact, et c'est l'algorithme qui va taper en fonction du carnet de contact avant de te montrer à des... hors de ton carnet.
Oui.
TikTok, tu viens, il n'y a pas de contact. C'est en fonction de ce que tu fais que tu vas avoir un fil d'actualité. Et après, tu peux suivre ou pas. Mais, la logique est inversée. Maintenant, si tu regardes le nouveau de Facebook Thread, c'est un copier-coller de Twitter.
De Twitter, oui.
Blue Sky, c'est un copier-coller de Twitter.
Ouais, c'est niche. Hein.
Donc, tout le monde veut se réinventer sur les centres de Twitter. Je pense qu'il y a des barrières à l'entrée quand même qui sont importantes avant de trouver... parce qu'il y en a plein qui se sont lancés, mais qui ont périclité. Quoi.
Je parlais avec Laura Bocobzar, que je salue. Là. On parlait de Dark Social. On parlait de cette nouvelle tendance de communiquer, de partager des infos uniquement avec des... bah, en direct, quoi, avec en one-to-one. Comment. Et ça typiquement c'est l'intime, c'est la recherche du trust, de la confiance, et finalement je me demande, donc alors déjà pour faire ce dark social, il y en a quand même beaucoup qui se passent sur WhatsApp et Telegram, enfin je pense aux deux comme ça.
L'email. Tu dis que c'est nouveau, mais en fait ça n'a jamais non, c'est pas ouais, nouveau, c'est sûr, ouais, ça c'est... date depuis.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est certainement le dark social. Qui existe avant les réseaux sociaux, puisqu'on a commencé par l'email.
Bien sûr, ouais.
Et en fait, on a mis un mot dessus, mais tout le monde fait du dark social sans le savoir. Tu lis un article ou tu as une info, tu vas l'envoyer par un pote, par SMS, WhatsApp, Telegram peut-être, ou par email. Tu as passé une info qui n'est pas traquable par l'auteur.
Ouais. Disons que les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, ils ont permis de faire du one too many, et c'était un peu la fainéantise pour tout le monde. Quoi. C'est quand tu as envie de partir. Moi, je me rappelle quand les réflexes que j'avais il y a encore un an et demi, quand je voyais une bonne news, par fainéantise ou par paresse, je faisais du one too many sur. Sur je sais pas d'ailleurs, sur Twitter, sur Facebook, je voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai une bonne news, j'essaie déjà de savoir dans mon carnet d'adresses qui est-ce que ça peut intéresser au plus haut point. Et c'est là où moi mon move il s'est fait, c'est qu'aujourd'hui je me force à faire du one to one avant de faire du one to many.
Mais avant de la partager ou en la partageant, est-ce que tu la complètes d'un point de vue, d'un décryptage, d'un complément, d'une contradiction? Est-ce que tu l'argumentes?
J'évite de faire du drop link comme ça, mais je fais 3-4 mots-clés pour la personne. Hein. Tiens, est-ce que ça t'intéresse, vu le hashtag, le sujet dont on s'est parlé
Ça, tu contextualises.
Un petit peu, oui, nécessairement. Oui,
ouais. Ouais, mais c'est ça qui est aussi important. Moi, c'est un peu le but de la newsletter dont tu m'as parlé dans le vrai faux. C'est fier, c'est ni plus ni moins que, alors je spoil peut-être un petit peu, mais d'exploiter ma veille et de la partager, mais en apportant mon point de vue.
Ouais.
Et c'est un moyen pour moi, en fait, de montrer comment faire, parce que c'est ce que je vends à mes clients, de prendre la parole en utilisant ce qui existe déjà. Et donc, j'ai un credo qui est de dire, je dois faire ce que je recommande. Mmh. Sinon, j'ai un manque de crédibilité pour moi.
Ouais. Ah ouais, et puis c'est le point de vue hein, qu'on t'achète, hein. Enfin, qu'on vient chercher l'insight. Hein, mmh. Enfin bon, voilà, parenthèse refermée, des digressions qui peut être un vrai rabbit hole, hein, ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous montrer ton iPhone? Alors, donc déjà, c'est un iPhone. Quelle version?
Le 10, il est très vieux.
Le 10, ouais, le 10 c'est un beau virage dans les iPhones. Ouais, ça commence à être du...
Alors, il n'est plus à jour avec ouais. le dernier OS.
Ah, tu t'es fait... d'accord, mis de côté, ban.
Le nouvel OS prend le XR, mais pas le
X. D'accord, alors, je ne sais pas ce qu'apportent les nouvelles fonctionnalités des nouveaux OS, mais... Ok, et donc, dans ton iPhone, tu vas nous partager quelques applications que tu as. Est-ce que tu es sur plusieurs pages, une
voilà
page ?
Voilà ma page d'accueil.
Ah oui, d'accord, tu n'as rien, en fait.
J'ai rien. Alors, si tu regardes le fond, en fait, c'est...
T'as quatre...
Ça, parce que je ne peux pas les enlever, sinon je les enlèverais.
Ah ouais ?
Le dock, si je pouvais l'enlever. En fait, c'est une capacité d'addiction assez forte.
Ah, c'est énorme.
Donc que déjà, tu vois qu'il n'est
pas, mal,
il est pas en couleur.
Ouais.
Il est en gris.
Ouais.
Et j'ai fait une première page sans aucune application, sauf les quatre du bas.
Ah, oui,
on
oui.
va revenir. Après, quand tu tournes, je n'ai qu'une page. Et ils sont tous rangés, tu vas rigoler, par couleur.
Ouais, enfin par couleur, tu l'as mis en noir et blanc.
On est d'accord, ouais. Mais je l'avais fait avant.
Okay.
Alors, après, tu as un raccourci, trois petites tapes sur le dos,
ouais.
Et il passe en couleur.
Alors, moi, je suis complètement nul à ces trucs-là. Mais
toujours est-il que je les ai rangés par couleur. J'avais
mais
lu un
énorme.
Article, je me souviens, dans un train, de quelqu'un pour travailler l'addiction au portable. Il avait fait deux choses. Il les avait rangés par couleur. Alors, c'est chiant quand tu as une application qui change son picto et qu'elle change de couleur, tu vois.
Mm-hmm.
Je me souviens d'Instagram qui a changé de couleur. Aujourd'hui, il est dans les rouges. Il était d'une autre couleur avant. Mais toujours est-il que je les ai rangés par couleur pour avoir qu'une page.
Mm-hmm.
Et ensuite, j'ai mis effectivement en nuance de gris. Et donc, je le mets en couleur quand j'ai besoin.
Mais ça te sert à quoi de regrouper tes apps par les couleurs de leur logo?
Parce que je sais où les chercher. Je sais.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est ton cerveau qui va chercher l'app en fonction de la couleur dont il se souvient et
Exactement.
Pas en fonction de la fonction qu'elle remplit.
Exactement.
Parce et que, donc, ça va
parce
plus
que
vite.
Si je dois chercher dans l'ensemble, là, des carrés, qu'est-ce qui est productivité, il faut que je cherche le truc productivité.
Donc, Twitter,
même si je sais où il est.
Le switch, pas bon, quoi, parce que petit oiseau bleu à X noir en gris.
Donc, là, je sais qu'il est noir. LinkedIn, c'est bleu. Toi, je dis Insta, c'est rouge. Message, c'est WhatsApp, c'est vert.
C'est super fort, ça.
Doctolib, c'est ce que j'ai appelé pastel.
Ouais.
Donc, je vais... Puis sinon, il y a le moteur de recherche.
Alors là, tu as tapé trois fois derrière ton écran.
Oui, parce que tu peux faire un raccourci.
D'accord. Et donc là, OK.
Ou alors le bouton latéral.
OK. Le fait de le mettre en noir et blanc, ça aide la vue, quoi.
En termes d'addiction, mais surtout d'agressivité.
Moins influençable, quoi.
Ah ouais. Le noir et blanc, ça a une capacité à te calmer, mais à tel point que quand je le remets en couleur parce que j'en ai besoin, tu vois tout de suite l'agressivité de la couleur.
Ouais.
C'est impressionnant.
L'agressivité de la notification de messages non lus rouges.
Ouais, voilà, par exemple.
Où tu es là.
Et je suppose que tu vois ce qu'il y a en bas. En bas, tu vois, j'ai le téléphone, ça me sert encore à téléphoner.
Les quatre applis du bas, donc téléphone.
Téléphone, Notion.
Notion en première ligne.
Ouais.
Bah, c'est ta knowledge, hein. Enfin, tu viens de nous en parler. Mais...
Ouais. À côté, il y a un truc qui s'appelle AudioPen.
D'accord.
C'est une IA. Tu lui dictes. Alors, j'ai la version gratuite. Tu lui dictes ton idée pendant 3 minutes. Une idée que tu as. Donc, il va te la transcrire, mais il va t'en faire un résumé.
Mmh.
Et le résumé va organiser ta pensée bordélique. Et c'est impressionnant. 9 fois sur 10.
Tu nous rappelles le nom de l'IA?
AudioPen.
AudioPen, OK.
Et c'est assez magique quand tu le testes.
Français, c'est bon?
Je ne suis pas sûr que ce soit un français derrière.
Ça prend le français en charge.
Pardon. Oui, ça prend le français. Et alors, à côté, j'ai un truc que tu connais peut-être, LogSeq.
Oui, ça me dit quelque chose, mais c'est vieux.
C'est un...
Non,
LogSeq.
Ça trace les logs?
Non, absolument pas. D'accord. C'est pour prendre des notes. Avec une à la base, c'est du journaling. Et puis, tu as une représentation de tes notes en mapping. un peu comme sur Obsidian.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, j'ai eu un moment de réflexion. Je suis très visuel, donc Obsidian me plaisait pour cette représentation. Par contre, pour moi, c'est juste ingérable pour prendre des notes. Il faut être dans une démarche de prendre des notes, comment dire, que t'aies le temps d'ouvrir l'application ou quoi que ce soit, et pas à la volée, ni d'aller mettre
C'est pas fait pour.
Des prises d'articles, etc.
Oui, tout à fait.
Donc là, sur mon ordi, j'ai Save to Notion pour mettre dans Notion. Et ça, c'est
là, tu nous en parleras. Ouais.
Et donc, je suis revenu et j'ai dit non, je vais rester sur Notion. Et Loxic me permet quand même de prendre des notes. Alors, je prends beaucoup de notes écrites parce que j'ai un bloc-notes, un calepin. Et en fait, je prends en photo, je le mets dans mon Notion après s'il faut. Ou je retranscris, ce qui n'est pas forcément efficient. Mais j'aime beaucoup le papier, le stylo encore. Tu vois. Et Loxic, en fait, quand tu as besoin, tu notes très vite, tu mets des tags et tout. Et puis après, je peux synchroniser le journal Loxic avec Notion. Alors, pourquoi je ne le fais pas dans Notion? Parce que c'est trop lent pour s'ouvrir.
Ouais. Et Note, il ne le fait pas, le Note d'Apple? Tu peux pas mettre des hashtags et des tags.
Donc... Ouais, mais après, il faut que je le transfère. Ouais. Sinon, je me suis fait avec un outil qui s'appelle Tally, qui est un
formulaire.
En fait, j'ai un formulaire qui s'ouvre super vite. Et je l'ai en raccourci. Alors, tu vois, j'ai une deuxième page, j'ai un peu menti, mais je m'en sers quasiment jamais. Et en fait, je clique dessus. C'est un formulaire, je mets mon idée, je l'envoie et en fait, ça va tout de suite dans ma...
Synchronisation entre Tally et Notion. Notion,
exactement.
D'accord.
Et ça s'appelle Pansine.
Pansine ?
Pansine.
De quoi le...
Le nom de ce formulaire s'appelle Pansine.
Ah oui, le nom
laisser partir son idée.
Ouais, d'accord.
Bah, en fait, ça vient de Harry Potter.
Ah mais oui, les Pansines. Mais oui, les Pansines, oui, d'accord. Ouais.
Voilà.
Donc, tu synchronises les deux avec un outil type Zapier ou...
Non, direct.
Ah non, ah oui, d'accord.
Tally Notion direct.
Ah, ils sont mis d'accord entre eux.
Bah ouais, surtout que Tally, c'est du Notion-like dans la façon de faire le formulaire. Oui. Donc, c'est super bien.
À Tally, je recommande. Ouais, c'est un formulaire. Enfin, c'est un outil pour faire. Ouais. Un peu comme Google Form, quoi. Comme Typeform.
Ouais, exactement.
Mais mieux pensé.
C'est une start-up, mais qui est top. Je les ai connus au tout début. Mm-hmm. Et en fait, j'ai pris. J'ai pris une licence à vie au début pour les aider. Pour eux. Pour les aider à développer, parce que j'ai trouvé ça génial, parce que j'ai un autre outil pour les formulaires qui est beaucoup plus costaud, lourd, qui s'appelle Jotform.
Jotform, oui, c'est...
Qui est bon, alors qu'il y a, tu fais tout avec, hein, c'est une grosse machine, derrière, tu récupères ton résultat sous forme de PDF structuré, mais tout est à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'outils d'automatisation externe.
D'accord.
Donc Jotform, je l'ai aussi, mais j'ai les deux en fait.
D'accord.
Et en fonction du besoin, c'est l'un ou l'autre.
D'accord, hyper intéressant. Moi, je cherchais un outil, je ne sais pas si tu peux m'aider, mais un outil qui te permettrait, peut-être que Jotform le fait, c'est pour ça que je rebondis, c'est de constituer tes slides avec une base de données déportée. C'est-à-dire, en gros, tu as ta base de tout le texte que tu as sur la slide, tu ne le remplis pas dans la slide. Un peu comme Glide, tu vois, un peu pour ceux qui connaissent... je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent Glide. Glide, c'est un outil qui permet de créer des sites web à partir d'une base de données hébergée sur une sheet Google ou sur une base de données Airtable. Donc, du coup, ça permet de dissocier la base de données et le front, comme on dit. Alors, la question technique, c'est est-ce que ça existe ? Peut-être que ceux qui nous écoutent...
Je pense que tu dois pouvoir faire un truc avec Jotform, ouais.
Bah avec Jotform, la manière dont tu le décrivais, j'avais l'impression que
c'est un formulaire, tu rentres tes données et en fait, tu peux récupérer en sortie
un PDF
ou un rapport.
C'est malin, ça, parce que... Ouais.
Après, comme si c'est du texte, il faut voir la mise en page. Et tout.
Ouais,
tu as des IA maintenant qui te font des slides. J'avais une publication sur LinkedIn de quelqu'un qui disait « PowerPoint est mort parce que voilà les 10 IA qui permettent de faire des slides ». J'ai fait un commentaire en 3 lignes. Le problème, ce n'est pas PowerPoint ou les IA. Le problème, il est entre la chaise et le clavier.
Donc, c'est clair.
C'est pas les IA qui vont faire la qualité des slides. Steve Jobs, il prenait un stylo, un crayon avant d'aller faire ses slides. Ouais.
T'as vu cette étude du BCG, je crois, qui parle sur la Gen AI, l'étude de la 6 mois, qui dit qu'en gros... Alors, ça vaut ce que ça... Enfin, c'est une étude, malgré tout, mais qui dit que la Gen AI sert surtout les mauvais... Et quand tu vois ce que peut faire alors pas toute la Gen AI, et puis ça c'est un peu polémique ce petit cette petite phrase, j'en conviens, mais les outils, dans les 10 outils qui te changent la vie, là, il y en a forcément un dont tu viens d'en parler, qui est celui qui te transforme la slide à partir du texte, tu vois. Et en fait, tu te poses 2 minutes, calmement, tu commences à faire un dessin, tu commences à écrire, ça ne te prend pas plus de temps que de piloter cette IA qui va te cracher des slides horribles et que le temps que tu vas passer à la calibrer finalement et d'avoir ta vraie slide.
En fait, c'est où est-ce que tu mets de la valeur ? De la tienne. Avant d'aller faire des slides, qu'est-ce que tu veux raconter ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi le contenu ? C'est quoi l'arc narratif ? Tout ce que tu veux. Donc, ça te facilite le travail. C'est comme le temps que tu mets à écrire un prompt pour avoir un texte. Souvent, tu vas plus réfléchir au prompt.
Ouais.
Alors que tout ce temps te permet de te structurer, tu pourrais aller écrire.
Tu pourrais le faire
tout de suite. Ouais. Derrière.
Moi, je mesure souvent ce gap. Hein. Je mets le chrono et parce que je veux savoir où est-ce que l'IA m'aide et me rend plus productif. Et c'est pas évident parce que avec l'effet waouh, on a tendance à dire ouais, ça, bien sûr. Et en fait, quand tu mets le chrono, il y a certaines tâches. Effectivement, je me suis il y en a évidemment l'IA. Tu ne peux pas la battre. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas évident. Quoi.
Alors, c'est sûr qu'une fois que tu as un prompt, tu peux reproduire très rapidement en mettant juste à jour ce que tu vas, l'input et l'insight de ce que tu vas souhaiter avoir à la fin. Donc, effectivement, ça va aller plus vite après. Mais parfois, si c'est une tâche que tu as à faire qu'une fois, mais fais pas un prompt, prends ton cerveau. Quoi.
Ah oui? Ça ira, dans tous les cas, ça ira plus vite.
Bah ouais.
Écoute, on va donc merci pour nous avoir partagé les apps sur ton iPhone. On va rentrer sur la partie un peu lecture. Dans le vrai ou faux, on a compris que t'étais en veille sur différents sujets. Bon, on a parlé de LinkedIn un peu vite fait. Quand les gens te lisent et t'écoutent, pas encore, hein, mais avec cet épisode, on voit que tu as une appétence quand même sur tout ce qui est sujet transfo digital, marketing aussi.
Email marketing. Moi, j'ai fait 5 ans en agence d'email marketing. Donc, j'ai basculé sur le web dans les années 2000. Ça va faire boomer, hein, mais je suis né 3 ans trop tôt. Donc, j'aime bien dire que j'ai connu le monde sans Internet. J'ai commencé ma carrière pour téléphoner à un client. Il fallait que tu arrêtes dans une cabine téléphonique avec ta carte France Télécom, faire de 250 chiffres pour faire le numéro de téléphone. Puis si tu te trompes dans le numéro de téléphone, il faut reprendre à zéro. Donc avant, on n'avait pas l'Internet et j'ai basculé dedans en 2000, moi, avec de la web agency, de l'ergonomie, etc. Donc j'ai vu toute cette évolution un peu du web, le 1, le 2, le 3, le 4, je ne sais pas combien on est. Il faut toujours donner des numéros.
Ça ne s'arrête plus.
Ça ne s'arrête plus.
Mais tu es en veille, donc, du coup, sur quoi ? C'est quoi tes sujets du moment
Les sujets du moment aujourd'hui, c'est tout ce qui va être ce que j'appelle influence professionnelle.
Ouais.
Donc, tout ce qui permet, en fait, j'ai envie de dire, la conversation entre humains. Dans un domaine plutôt B2B, parce que mon domaine, c'est plutôt le B2B. Donc, il y a essentiellement, LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul réseau vraiment professionnel B2B qu'on peut avoir, même si tu peux aller sur les autres. Mais LinkedIn est 100% B2B, les autres sont B2C et peuvent être utilisés dans un cadre B2B. Je vais m'intéresser évidemment à tout ce qui est IA, tout ce qui est IA générative notamment, tout ce qui est neurosciences.
Parce que hyper intéressant.
Super intéressant. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai une formation scientifique, biologie, biochimie. Génétique. Et donc, depuis quelques années maintenant, les neurosciences ont été vulgarisées énormément avec des ouvrages qui permettent de les rendre accessibles. Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui est le livre à lire, je pense, pour comprendre ça. Ouais. Et de voir comment, en fait, les neurosciences nous font réagir à travers aussi une interface homme-machine. Un site web ou même un réseau social, ton profil LinkedIn, par exemple, les gens vont aussi réagir par rapport à une partie de on parle d'émotion, etc., le côté rationnel, pas émotionnel. Après, de façon plus large, effectivement, tout ce qui est marketing digital, techno, il y a la partie RH aussi, mais RH par rapport plus, qui me sert plus par rapport à LinkedIn, tu vois, employé advocacy et la vente. j'ai une expérience de commercial depuis le début, quoi.
Ouais.
Toute ma vie professionnelle a été essentiellement dans des fonctions commerciales.
Donc, tu es un peu multi-sujet et en même temps avec un point de fuite qui va être pas le développement personnel, mais le
professionnel.
Développement professionnel ouais, à l'échelle individuelle. D'accord.
En fait, je vais avoir un prisme effectivement dans tout ce que j'analyse, c'est comment ça, ce sujet, cette information joue dans nos relations aux autres.
Et qu'est-ce qui a structuré un peu ta pensée en termes de lecture, disons de bouquins, est-ce que là tu nous en as cité un, mais est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a marqué dans ta carrière,
il faut savoir que même si je produis des contenus, si j'ai un blog, etc., moi en français, j'étais un cancre en français. J'étais nul en dictée, en rédaction. Ouais. C'était un cauchemar pour moi, la matière française, le français. Donc je m'y suis mis parce que j'ai ouvert mon premier blog en 2004. Et j'ai commencé à bloguer sur l'email marketing. Et puis après, c'est là où je me suis mis
2004,
à écrire.
2004, c'est la naissance des blogs. Été le premier, quoi.
C'est là où j'ai commencé à effectivement ouvrir un blog pour parler d'email marketing. Et puis en fait, à force d'écrire, j'en suis arrivé effectivement aujourd'hui. Tu l'as dit, j'ai écrit un bouquin, mais au départ, c'était pas gagné, quoi. J'ai pas lu tous les classiques. Tu vois, bouquins qui ont marqué ma vie à ce niveau-là, non. Professionnellement, il y en a un dont je me suis souvenu, qui s'appelle « Valeurs sur le net », qui est écrit par deux auteurs de chez McKinsey, 99.
D'accord.
Sur la notion d'infomédiaires. Et ça m'a passionné.
Ah, d'accord.
Les infomédiaires.
C'est plus valorisant qu'infopreneur.
Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, les infomédiaires, moi, ça m'a passionné parce qu'en fait, c'était... En tant qu'entreprise, tu avais des infos sur tes clients, mais sur personne d'autre. Et les infomédiaires, c'est des gens qui collectaient de l'info. Donc, on parle 99. Hein, collectaient de l'info sur tes clients, tes non-clients, et qui te permettaient d'aller toucher des futurs clients par rapport à une multitude d'informations qui te permettaient de faire du ciblage quelque part.
Le début du CRM, quoi.
En fait, ouais. Pas CRM. C'est pas du CRM parce qu'on parlait de clients. À l'époque, moi, je parlais de PRM. Prospect Relation Management. En fait, d'avoir des infos sur des gens qui n'étaient pas tes clients. Et aujourd'hui, c'est quoi les réseaux sociaux si ce n'est pas des infomédiaires? Donc, ça a été une évolution. Et aujourd'hui, le terme n'est plus trop utilisé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je voulais travailler là-dedans, dans la notion d'infomédiaire. Avoir de la data, de la connaissance, et pouvoir aider les consommateurs, et les marques pour qu'elles puissent se rencontrer.
Tu connais ce plugin sur LinkedIn qui t'analyse en fait le profil, et il y a un peu de neurosciences derrière, mais il y a un peu d'IA et qui te dit le type de profil psychologique que la personne a. Tu as pas vu, ça s'appelle Crystal, je crois.
Ouais, Crystal, ouais.
Je sais pas ce que ça vaut.
Ouais, mais alors moi, il faut toujours que je sois un casseur d'ambiance et que je sois jamais d'accord. Je pense qu'il y a des choses qui sont pertinentes et bien. Mais je ne sais pas si j'ai raison dans ce que je dis, hein, c'est plus ma perception. Mais franchement, on a l'impression de lire un horoscope.
Oui, c'est vrai que c'est présenté.
C'est-à-dire que, je veux dire, tout le monde va se retrouver quasiment plus ou moins dans ce qui est dit. Donc,
t'attends ton tour, tu vois.
Ouais, je suis un peu sceptique, même si ça peut aider. Ça peut aider.
On découvre. Mais... découverte de que prospect.
Ouais. Si tu veux,
c'est cher en tout cas, hein, je crois.
Ouais, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres solutions, mais ouais, celle-là, elle est assez intéressante. Elle donne des infos, mais quand je me suis auto-analysé, j'ai fait sur mon profil. Je veux bien, ouais, mais bon, ça me brosse dans le sens du poil. J'aimerais bien être comme ils me disent.
Tu vois
ce que je veux dire, c'est en ça où c'est un peu horoscope, quoi. Tout le monde va s'y retrouver parce que c'est standard, c'est bateau.
Et tes lectures du moment, t'en as? Alors, des bouquins, je veux dire, pas tout ce qui est revu, mais est-ce que tu as des bouquins?
Mais en fait, je
t'es pas bouquin.
Si, je suis très bouquin.
T'es très bouquin.
Je suis très bouquin papier.
Ouais.
Je lis énormément. Ça doit être, si je me suis pas fait psychanalyser, mais je pense que c'est justement parce que j'étais mauvais en français et que je lisais pas du tout. Je lisais que des BD hein, quand j'étais jeune, au grand dam de mes parents. Aujourd'hui, je lis énormément de livres.
Ouais.
Avec la frénésie des réseaux sociaux et la sur, je dirais, multiplication des publications, etc., je me demande s'il ne faut pas revenir à du livre, parce que la structure narrative est différente.
Mmh.
Un livre, il y a un début, une fin, c'est un fil narratif linéaire quelque part.
Mmh.
Et tu dois structurer ta pensée. C'est ça aussi où écrire, moi, m'aide. Je trouve que ça aide à structurer ses idées, à poser ses idées, à structurer sa pensée, à organiser en fait sa pensée. Donc, je suis très très livre. Ceux que j'ai lus qui m'ont marqué, parce que je pense que ils sont importants, c'est le Cloutrain Manifesto.
Ouais.
Je sais pas si tu connais. 99.
On en avait parlé avec Laura.
Avec Laura.
Mais que je ne connaissais pas ce livre. Ouais.
Après, d'un point de vue professionnel, il y a Permission Marketing.
Oh, de Seth Godin.
De Seth Godin.
Ouais, incroyable. Hein. Ouais.
Et en fait, j'ai presque envie de parler de Permission Selling.
Ouais.
Sur LinkedIn.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une automatisation qui peut faire qu'on te vend des trucs dont tu n'as pas besoin.
Et en deux mots, là, pour que les gens connaissent un peu le fond du permission marketing, tu peux nous dire
Globalement, c'est d'aller obtenir l'autorisation de pouvoir parler à quelqu'un sur un média email.
Ouais. C'est lui poser la question. Quoi.
Ouais. C'est avant de je dirais de le contacter pour lui vendre une solution sans apprendre à le connaître, c'est d'avoir son autorisation de créer une relation. En fait, j'ai tendance à dire que si ça n'existe pas dans la vraie vie, ça ne doit pas exister sur LinkedIn, sur l'email, etc. Tu n'as personne dans la rue, à part des vendeurs à la sauvette, qui veulent te vendre un truc. On te dit bonjour, on essaie de savoir qui on est, de créer une relation, de nouer et d'initier une relation avant de voir si je peux te proposer un produit, un service ou quoi que ce soit. Donc, cette notion de permission marketing, c'est une démarche en fait, qui est d'abord de connaître son interlocuteur pour pouvoir ensuite faire du partenariat, de l'échange ou de la vente directe.
C'est pas trop ce qu'on voit passer sur LinkedIn en message direct.
Non, pas vraiment, marketing. Non. Absolument pas. Non. Surtout pour te vendre des produits dont tu n'es pas concerné du tout.
Non, ouais, c'est pas. Donc ouais, ça c'est deux bouquins, c'est un peu structuré.
Ouais,
ouais.
Le Cloutrain Manifesto, c'était vraiment d'un point de vue prospectif, c'était extraordinaire. Et le permission marketing m'a vraiment structuré à l'époque où je travaillais dans l'email marketing.
D'accord.
Après, en termes de livres, je lis beaucoup de livres sur l'IA. Des livres qui sont plutôt sur, je vais avouer, critiques sur l'IA, avec une prise de recul, parce que je trouve qu'on a tendance à foncer tête baissée sans voir les effets de bord, si tu veux.
Oui, ça va vite. Hein,
et sur l'IA, ça va tellement vite que c'est... Enfin, je veux dire, tu ne peux passer ton temps qu'à t'informer et presque pas produire presque, parce que ça va trop vite, quoi. Il y a des applications tous les jours, des solutions.
Quand tu dis... moi, je partage exactement ton point de vue. C'est-à-dire, ça va trop vite, on n'a pas le temps de produire. Et donc, quelque part, on n'a pas le temps de prendre du recul, de se poser et de se dire qu'est-ce qu'il faut en penser, quoi, et même de partager son point de vue. Alors, finalement, ce qu'on repartage, généralement, c'est ce qui nous arrive en tant que news, et puis on la repartage immédiatement. Enfin, pas forcément nous, ni ceux qui nous écoutent, parce qu'on est sur un podcast sur la veille, mais quoi que ça arrive à tout le monde. Mais on est plus dans un rebond et moins dans le temps. On se calme, on se pose, on tire des insights sur ce qui vient de se passer.
Sur prendre nos IA génératives et les prompts.
Mm.
À quel moment les prompts qu'on nous vend comme étant le prompt ultime pour faire des ventes a été créé, testé, évalué, mis en prod, expertisé avec des retours? C'est pas possible. Tous les jours, ils t'en sortent qui sont les prompts magiques qui vont résoudre tes problèmes. Mais il faut quand même, pour que ça soit efficace, un minimum de temps pour les mettre en place, quoi, et pouvoir les utiliser dans une situation concrète et pouvoir analyser le retour. À la vitesse où ça va, je crois que le prompt ultime du mardi est déjà périmé le mercredi, tu vois.
On vit vraiment dans une époque où de la FOMO, comme on dit, voilà.
C'est exactement.
La peur de louper et de passer à côté de quelque chose nous fait essayer tout et... Ok. Et
ouais. C'est là où, tu vois, je vais citer un autre livre qui est intéressant, c'est le Deep Work de Cal Newport.
Ouais, ouais.
Tu vois, revenir en fait à une maîtrise de notre temps. Tu vois, on te dit, c'est vrai qu'on veut toujours des trucs pour être plus efficace. Mm. Plus efficace, aller plus vite, etc. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas? Quel est l'intérêt d'être plus efficace? Est-ce qu'il ne faudrait pas être dans le slow?
Dans le slow et dans le low.
Dans le low, dans le slow, dans le plus lent. C'est une vraie question. Alors, je pense que privilège de l'âge, le recul, tu raisonnes aussi. Il faut recontextualiser. Comme je dis toujours, il faut toujours contextualiser ce que chacun dit. Parce qu'il sert ses propres propos et ils sont liés à son environnement, à sa façon de voir les choses, qui n'est pas l'unique. Donc, il faut recontextualiser, comme je disais tout à l'heure, côté pré-boomer presque.
Oui, enfin après, ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut. C'est faire un peu de la slow knowledge, quoi, de la slow. De prendre le temps de passer de j'allais dire la récolte. le mot ne me vient pas. De passer de la collection, du recueil d'infos à la phase traitement et pas en deux minutes, quoi. Et la phase traitement elle-même de l'info, il faut aussi lui consacrer beaucoup de temps.
Mais là, tu vois, on parle de recueillir de l'info,
ouais.
D'aller faire de la veille. Ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de notre veille?
Voilà.
À quoi elle sert?
C'est ça.
Moi, je sais que tout ce que j'ai comme source, je n'ai pas le temps de lire toutes les sources. J'en ai trop. Alors, la référence, c'est Laura Bocobza, qui est impressionnante. Le nombre de sources, non seulement elle a un nombre de sources hallucinant, mais elle les lit toutes.
Elle a une
capacité qui est impressionnante.
Puis il y a du sens entre le.
Puis elle connecte tout.
Ouais.
Elle connecte tous les dots, comme on dit, les points entre eux. Moi, l'idée, c'est faire de la veille, c'est bien, mais comment je la mets en action? Et le moyen que j'ai trouvé de la mettre en action, soit je la garde pour moi, mais à ce moment-là, peut-être qu'une idée va ressortir dans une réunion avec un client, dans une discussion, ok, mais c'est dérisoire comme utilisation. Ça nous enrichit, on est d'accord. Mais pour l'activer et aller un cran plus loin, il faut la repartager.
Ouais.
En l'argumentant. Ce qu'on appelle la curation argumentée. Quelle info je vais récupérer, je la filtre, laquelle je garde parce qu'elle est pertinente. Et ça, c'est une phase de collecte. Et après, je dissocie moi, les phases où je vais la lire et l'exploiter en l'argumentant. Puis une phase où je vais la repartager, notamment, comme on l'a dit, dans Fier, mais ça peut être aussi une publication sur un réseau social, ça peut être. Un blog, ça peut être n'importe quoi, un canal WhatsApp, peu importe. L'idée est vraiment de se dire qu'est-ce que je fais de l'information et comment je de cette matière première, je crée une nouvelle matière avec mon décryptage.
Ouais. Mais c'est un peu l'approche de Laura quand elle était passée sur sur son épisode, elle nous disait finalement le fait d'écrire une newsletter, c'est l'effectuation, quoi. Ça lui permet de donner du sens à toute sa veille, quoi. Parce que si elle ne le faisait pas, c'est ce que tu dis, ça resterait rangé. Après, moi, je connais quand même quelques curateurs anglo-saxons, il y en a certainement en France, mais qui en profitent pour constituer un dataset qui stocke dans des Notion, tout ça, et qui pour certains, monétisent l'accès. Voilà, quoi.
Alors, il y a ça, et puis on parlait aussi des IA, le terme qui vient de sortir, j'allais dire à la mode, mais pas encore, mais c'est le RAG.
Le RAG, R-A-G, oui.
R-A-G, qui est en fait la capacité de nourrir avec ses propres données, son corpus de veille, par exemple, une IA, et quand on l'interroge, en fait, elle va taper que dedans. Ce que Notion a mis en place avec son IA, moi, il m'arrive, là, on enregistre un jeudi, donc ce matin, comme Fier part tous les jeudis à 18h, ce matin, j'avais besoin de retrouver dans quelle newsletter j'avais parlé de ce sujet-là. J'ai demandé à l'IA interne à Notion dans quelle édition de Fier j'ai parlé de ça. Il me l'a sorti. Et ça, c'est magique.
Ça, c'est un très bon move de Notion que d'avoir fait ça.
Ça là, tu as un second cerveau. Ouais. On parlait de livre Thiago Forte, le second, construire son second cerveau.
Ouais.
Ça m'intéresse parce que c'est une façon d'organiser tout son contenu et surtout de s'en servir.
Alors Thiago Forte, c'est quelqu'un qui a écrit sur ce sujet, donc du second cerveau, ouais, que je vous invite à lire, qui est vraiment qui est très bien. Thiago Forte, c'est un peu l'expert du moment, quoi, sur le, ouais, sur le sujet. Et...
C'est alors derrière ça, il y a la notion de prendre des notes, de mieux prendre des notes, de mieux exploiter en fait tout ce qu'on fait dans la journée pour en créer de la valeur à un moment donné, que ça soit sur un projet, dans une discussion, pour s'enrichir, etc. Bon, lui, il pousse le bouchon pas très, très loin. Mais le principe est intéressant et j'essaye, moi, de reconfigurer mon Notion pour ça. Et j'ai mes quatre briques qui sont s'informer, informer, se former, former.
D'accord.
Donc, c'est très lié. Donc,
informer,
s'informer,
s'informer,
donc, s'informer, je prends de l'information.
Awareness, tout ça, ouais. Ouais.
Informer, bah, je partage. Ouais. Et dans l'autre partie qui est plus peut-être pro, c'est se former, continuer à se former sur nos codes, sur skilling, des techniques, tout ça, etc. Et former, parce que bah, c'est mon job, quelque part, moi, de former les gens.
Ouais. C'est pas mal. C'est la manière dont tu as structuré ton Notion, en fait.
Alors, il n'est pas complètement structuré. Je pense que la structuration de mon second cerveau, de mon Notion, sera constante. Tu vois, là, je suis en pleine réflexion. Comment j'arrive à mieux le structurer par rapport à des sujets, les tags, et puis avec les applications qui sont à notre disposition. Mais c'est vrai que ce qu'a sorti Notion, en implémentant son IA, qui permet aujourd'hui d'aller en fait interroger toute sa base Notion, même quoi qu'on y fasse. Moi, j'ai mon CRM dans Notion, j'ai toutes mes notes, j'ai tout ce que j'ai, ma veille, j'ai Save to Notion, donc un plugin qui permet d'alimenter sa base Notion quand tu navigues sur Internet. Donc
c'est un plugin Chrome.
C'est un plugin Chrome qui a rajouté là, des fonctionnalités qui sont vraiment bien.
Alors ça, tu m'expliqueras. Et donc, le plugin Chrome, il est dans votre barre. Quand vous cliquez dessus, ça va aspirer le titre, une image, le lien. En fait, vous demandez.
En fait, tu configures, tu connectes ça à la base de données que tu veux alimenter et tu la configures. Moi, j'ai une base pour tout ce qui est le stock de data. J'ai une base pour des profils de LinkedIn, donc j'ai pour mon CRM. J'ai une base pour toutes les applications. J'ai une base de données des applications que je vois. Je le mets dedans et après, je dis utiliser, pas utiliser, histoire d'avoir en fait aussi une forme de bookmark.
Plutôt que de tools, c'est, quoi, dispo, ouais, que tu as vu passer, tout ça.
Exactement.
Alors, c'est quoi les nouvelles features de Save to Notion?
En fait, tu peux paramétrer quelle image et quelle partie, par exemple, quand tu vas sur LinkedIn, tu peux définir la partie que tu prends.
En screenshot. Ouais, et ça t'envoie la petite vignette.
Exactement.
Qu'il faut, ouais, ça c'est puissant.
Et au moment où tu le prends, tu peux ajouter une capture d'écran à la main qui va se mettre automatiquement.
Ouais, alors, ça c'est vraiment.
Il y a des trucs qui sont pas mal. Et dans la version payante, au lieu d'avoir en fait un lien avec ce qui est en ligne, notamment quand tu construis ton CRM à partir de LinkedIn, en fait, ça te fait un screenshot qui est sur dans ton Notion. Parce que je me suis rendu compte que si la personne change sa bannière, par exemple, ou sa photo de profil, dans mon CRM, il n'y a plus la photo, j'ai une erreur 404. Parce que ce n'est plus le même lien. Et j'ai compris que c'était ça. Donc,
Oui, c'est pas mal pour traquer.
Là, je suis en train de construire en fait une base de données des bannières que je vois sur LinkedIn pour avoir différentes options qui va me permettre, quand j'accompagne mes clients, de leur dire voilà les types de bannières. Et en fait, tu les as toutes au même endroit plutôt que de voir les profils les uns après les autres. Donc,
C'était sur la partie. On parlait des livres, on parlait des bouquins, mais dans tes lectures, je dirais plus occasionnelles, plus régulières au quotidien. J'imagine que tu lis plein de blogs, t'es abonné à un certain nombre de newsletters.
Ah oui, alors ça, c'est plus du livre.
Plus du livre, web. On passe plus sur tout ce qui est, on va dire, ce qui te permet de tenir un jour un peu tous les. Ouais, au quotidiennement. Quoi. Ouais.
Alors. J'ai quelques newsletters, effectivement, auxquels je suis abonné. Je ne les lis pas toutes parce que je n'ai pas forcément le temps. Il y en a, en ce moment, peut-être deux, voire trois que je lis. Bon, celle de Laura, qui est tous les lundis, parce qu'il y a un tel panorama.
Le comment du pourquoi.
Le comment du pourquoi, donc Laura Bokobza. Tu as un vrai panorama, elle te fait une vraie synthèse. Et en fait, c'est vraiment les informations presque chaudes. Il y a toujours des choses à découvrir systématiquement. Donc, celle-là, je l'attends le lundi matin. Il y a celle de Benoît Raphaël, Flint, Génération Flint notamment, parce que Il a une vision super intéressante avec beaucoup de recul sur tout ce qui se passe dans l'IA. Donc elle aussi, je la lis énormément. Il avait Flynn Dimanche à un moment donné, donc qui était tous les dimanches là. Je crois que c'est une semaine sur deux. Et il y en a une qui est que j'ai noté, que je lis parce que je l'aime bien la façon dont elle est traitée. C'est une sur l'IA aussi. IA Pulse, qui est le week-end.
Okay.
J'ai un trou de mémoire sur celui qui Olivier Martinez qui l'écrit. Celle-là, je me suis rendu compte en ce moment que je la lisais
de plus en plus.
Régulièrement. Ouais. En fait, toutes les semaines parce qu'elle est intéressante. C'est une bonne synthèse aussi sur l'IA. Après, j'ai l'ADN, j'ai The Conversation, il y a Uzbek Erika que j'aime bien, Siècle le Digital.
Alors, tu utilises quoi ? Est-ce que tu utilises un agrégateur de flux RSS pour toutes ces choses-là ou pas ?
J'ai utilisé un agrégateur de flux RSS à une époque, Feedly, pour ne pas le citer. J'ai un peu arrêté le flux RSS pour passer à l'email.
Ouais.
Parce que j'ai trouvé ça plus intéressant. En fait, le flux RSS, sa particularité, c'est qu'il faut que tu publies un article pour que tu le reçoives. L'email, tu peux l'éditorialiser. Donc, c'est plus riche parfois un email. Bon, tu peux connecter un flux RSS pour l'envoyer par email. J'ai fait ça sur mon blog pendant des années. Tu n'éditorialisais rien du tout. Ça permettait aux abonnés de savoir qu'il y avait un nouvel article à lire. Basique. Aujourd'hui, je teste un outil qui s'appelle Readwise. Enfin, le reader de Readwise, qui est assez intéressant. Tu peux plugger des flux RSS, tu peux plugger des emails, tu peux plugger des comptes Twitter. Donc, une sorte de tour central qui te permet d'avoir tout au même endroit.
Je connaissais pas. Readwise.
Ouais, Readwise. Mais je suis plus en phase de test parce que j'ai bien structuré, en fait, à un moment donné, si on est pur email, pur newsletter. En fait, j'ai sorti les newsletters de mon outil de lecture d'email pro, donc de mon adresse pro, et j'ai créé une adresse spécifique pour m'inscrire au newsletter. Qui est une adresse Gmail, toute bête, qui me permettent de m'inscrire et d'avoir un autre outil de messagerie pour lire mes newsletters. C'est-à-dire que quand je suis dans mon...
Exclusif.
J'utilise Polymail comme outil de messagerie.
Ah, magnifique, Polymail.
Ça, c'est super top. Ouais. C'est parce qu'on peut traquer les
ouvertures. Tu peux traquer. Voilà. Je pense qu'on est tous à la version payante pour avoir cette feature.
Ouais. Et en fait, ça, c'est que mes pros. Alors, mon email perso et mes pros. Mais toutes les newsletters ont dégagé de là. Bon, sauf celle de Laura.
Ouais.
Et j'ai créé une adresse email. Donc, je me suis désabonné avec mes adresses pour me créer, en fait, un abonnement avec ça.
C'est ce que
j'utilise
propose...
Spark.
Ah.
L'outil de messagerie email Spark, qui me permet, en fait, d'avoir
complètement
isolé.
Ah, d'accord.
Et je suis même en train de me demander si cette adresse, parce qu'avec l'adresse Gmail, tu peux faire un truc vachement bien, c'est si tu peux créer autant d'adresses avec un tag que tu veux.
Ah oui.
Et tout arrive au même endroit. Il suffit de rajouter un signe plus avant l'arrobase et de mettre un tag. Par exemple, si je dis Bruno Fridlansky@gmail.com, c'est mon adresse.
Ouais.
Si je mets Bruno Fridlansky plus 1@gmail.com, j'ai une nouvelle adresse email unique que je peux mettre à un endroit et elle va arriver dans mon Gmail classique.
Mais ça sera tagué, pas tagué.
Il y aura marqué plus 1. Donc, je n'ai plus qu'à faire une règle. Si c'est plus 1, tu te vas dans ce dossier.
Ouais.
Et donc, je suis en train de me dire si je ne devrais pas aller jusqu'à avoir une adresse email de veille pour les IA, pour tout ce qui
plutôt
est
que de passer
RH.
Par Spark.
Non, en gardant Spark.
Ah, en gardant Spark. Oui.
Mais en ayant, en fait, vraiment un truc spécifique.
Ah,
parce
oui.
que quasiment tous les formulaires acceptent, parce qu'il y a le signe plus. Donc, c'est un signe qui peut être...
qui peut être problématique.
Problématique.
Oui, ça peut être un bon...
Mais en fait, ça te permet de ranger en amont
les sources. Ah, complètement, ouais.
Et d'avoir après un dossier automatique. Alors, tu pourrais le faire au fur et à mesure quand tu t'abonnes à une nouvelle adresse. Tu dis si ça vient de là, tu dois le ranger. Mais plutôt que de prendre du temps à chaque fois à refaire la manip pour chaque nouvel abonnement, bah, en fait, tu fais une adresse dédiée et donc ça se range tout seul automatiquement.
Alors, nous, on parlait... Enfin, il y a beaucoup d'invités qui utilisent un outil qui s'appelle... Alors que je n'utilise pas, qui s'appelle Stop Inbox.
Stop Inbox,
pour faire ça. Et moi, j'utilise. Alors, pour faire ça, il y a une feature dans Feedly, l'agrégateur URSS, qui donc Feedly te permet de générer des adresses email illisible, quoi, avec des chiffres et voilà. Et du coup, tu peux t'abonner et tu retrouves tes newsletters dans ton feed sur Feedly. Ouais. Alors, moi, Feedly, je l'ai. J'ai arrêté aussi. J'ai arrêté. J'ai la version payante. Voilà. J'ai arrêté parce qu'en fait, ça me déprime. Le nombre de choses sur lesquelles je passe à côté tous les jours parce que tu peux pas tout traiter, quoi.
Ouais, et puis...
Au bout d'un moment, ça me y a un petit coup au moral. Ouais, tu te dis waouh.
Bah, c'est un sentiment de FOMO, d'être dépassé, ouais, voilà. De productivité. C'est pour ça que en séparant, moi j'ai vraiment scindé. C'est t'as la captation, t'as le traitement et t'as le partage. Et donc la captation, elle se fait automatiquement. Elle va dans mon Spark et quand je veux dédier du temps à la consultation, à la lecture, j'ouvre Spark et je regarde ce que j'ai et je lis.
Ah oui.
Et après, je sélectionne.
T'as un temps pour tout, quoi.
Ouais.
Et t'as le temps d'attention est différent.
Exactement.
Et l'énergie est différente.
Et tu vois, le jeudi matin, le lundi matin, c'est rédaction de la newsletter du soir. Le jeudi matin, rédaction de la newsletter du soir. Lundi, c'est LinkedIn. Jeudi, c'est ma veille.
Ouais, t'as trouvé tes routines, quoi.
Ouais. Je me suis imposé ça pour avoir le temps de le faire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en même temps que tu fais ça, tu te dis pour quel dossier, pour quel client je peux utiliser ça ?
Ouais.
En quoi ça peut me servir ? Tiens, ouais. Dans cette news, il y a une info que je peux utiliser pour prospecter. Il y a un contact qui est identifié, etc. etc.
Ouais, le fait de scinder, ça permet de bien faire les choses jusqu'au bout et d'aller...
Exactement.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Et alors, je ne sais pas si c'est mal ou bien organisé, mais c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que le lundi matin, je fais la newsletter qui part le soir. Donc, quelques jours avant, je me dis de quoi je vais parler. Alors, j'ai une boîte à idées. Dès que j'ai une idée, évidemment, elle va dans la base Notion dédiée à la newsletter LinkedIn. Et quand je fais fier, je regarde ce que j'ai dans mon Notion et je dis, tiens, ça, c'est intéressant. Ça va aller dans flippant. Je vais le traiter flippant. En fait, il y a flippant, inspirant, enthousiasmant, réfléchir ensemble. Mais très honnêtement, toute news, toute info peut aller dans les quatre rubriques. Ça dépend de l'angle sous lequel je veux le traiter.
Il y a vraiment un outil qui manque. Quand je t'écoute, et puis en général, moi-même en faisant ma veille, il manque vraiment un outil hybride qui te permettrait de faire de la knowledge, de ranger tes petits dans les bonnes cases et de shooter la newsletter derrière. Tu vois. Un outil dédié au curateur.
Eh ben, en fait, alors, il n'y en a pas encore.
Non.
J'en ai cherché un. Il y en avait
si tu en connais un, j'en veux bien.
Il y en avait un, mais je ne sais pas s'il existe encore. Il faudrait que je recherche. Mais moi, mon rêve, c'était d'avoir dans Notion
un outil
de connexion de newsletter.
Bien sûr, ouais.
Alors, tu peux le faire parce que...
Ouais,
alors,
en Notion, tu peux faire des trucs, mais...
Ouais, mais tu ne peux pas router la newsletter. Je n'ai pas trouvé truc qui te permet, à partir de Notion, de dire ça, tu y vas, ça, tu y vas. Parce que dans mon optique de faire de la veille, et j'accompagne mes clients, et pour moi, j'ai toujours été commercial. Jusqu'à maintenant, quand on parle d'inbound marketing, par exemple, c'est le marketing qui fait des articles, qu'ils envoient par email dans une newsletter, et si ça clique, s'il y a de la réaction, on va passer après le lead au commercial à un moment donné. Mais le meilleur, je dirais, producteur de contenu, c'est le commercial. Alors, faut pas qu'il devienne, on ne lui demande pas de devenir un marketeur. Mais normalement, il doit faire de la veille ou on doit l'alimenter en veille.
Oui.
Et en fait, c'est le commercial qui devrait avoir un outil qui dit, tiens, j'ai 5 clients sur ce domaine, cette news, elle est intéressante, je la prends. Ah, celle-ci aussi. Voilà mon petit décryptage. Il clique sur un bouton, ça lui structure sa news et ça l'envoie de son compte à ses 5 clients. C'est de la micro-newsletter. C'est le commercial qui parle directement à son client et pas la marque. En
hyper
exploitant la news. Et donc là, on créerait de la qualité. J'ai pas l'outil.
Alors,
il y en a.
J'ai pas d'outil non plus identifié. Par contre, j'ai testé quelque chose avec ChatGPT. ChatGPT, je pense que c'est aussi et surtout très très puissant pour te créer des apps. Et ça dépend dans quel univers tu es. Là, je suis plutôt dans un univers knowledge depuis un certain temps, mais j'ai toujours une casquette no code et toi aussi. Et je pense que ChatGPT, pour tous ceux qui font du no code, ça doit être révolutionnaire. Et donc j'ai testé j'ai demandé à ChatGPT qui me programme un petit code Python. Pour que je puisse transformer une sheet, d'infos qui ont populé toute une sheet, de me dire, voilà, ça, c'est les éléments d'une newsletter. Et donc, à chaque fois qu'une colonne va être populée par telle info, alors, bah, en gros, compose une newsletter et envoie-la si possible. J'ai quasiment réussi. Je pense que si j'avais poussé le système jusqu'au bout, j'aurais envoyé les newsletters. Mais je pense aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de te construire un système, de te construire un outil à la fois curation et à la fois envoi de newsletters. Je pense que tu peux le faire.
Oui, tu peux le faire avec Airtable.
En
revanche, tu peux le faire avec Airtable.
Ah d'accord, tu peux.
Ouais, parce que la difficulté de Notion après, c'est de récupérer les éléments d'une base de données dans une newsletter, dans un outil de routage.
Ouais.
Airtable, c'est plus structuré parce que c'est base de données avant tout.
Oui.
Tu fais ça dans.
Mais oui, mais Airtable, je crois qu'avec Airtable,
et en fait, tu peux le faire ça. Tu fais on va parler peut-être un peu no code, mais tu fais avec Make, tu te fais ton automatisation, tes prompts pour connecter ChatGPT qui va effectivement remplir après tes cellules base de données Airtable. Derrière, tu les récupères et t'en fais une newsletter. Et ça, c'est avec ton Gmail ou avec un outil de routage.
En fait, du no-code. Passez au no-code, mouillez-vous, intégrez no-code France, parlez, c'est génial. Et sinon, sur les outils sur étagère, aujourd'hui, j'en connais plus. Par contre, il en a existé un certain nombre. Moi, j'ai utilisé beaucoup GetReview, qui était l'outil newsletter de Twitter.
Qui a été tué par notre ami Elon.
GetReview, c'était ça. C'était ce dont on parle.
Mais fier.
C'était GetReview.
C'était GetReview au départ.
GetReview, ouais.
C'était du GetReview.
Et alors, il existe l'équivalent de GetReview quand même. Ça s'appelle. J'ai mangé le. Donc, c'est le principe de vous sauvegarder avec un. Vous sauvegardez votre lien. Soit vous utilisez un plugin Chrome qui va vous aspirer les données liées à ce lien et qui va vous l'envoyer dans une pile. Et vous allez avoir tout un tas de liens qualifiés dans une pile que vous décidez à façon de mettre dans votre newsletter. Donc ça il en existe. C'est juste, c'est pas rapide, mais voilà, il existe des tout en un comme ça, mais voilà, il y a des problèmes de latence généralement.
Ce qui était top avec GetReview, c'est que comme c'était par Twitter, c'était un service Twitter, en fait, quand tu mettais un lien, tu avais la carte Twitter, mais dans ta newsletter.
Ouais. Ça, c'était récent. Ça, c'était il y a moins de 2 ans. Ouais.
Ouais.
Mais ça a été formidable, ça.
Mais c'était super.
En termes de growth,
c'était... envie. Et là, tu vois, dans Fier, aujourd'hui, j'ai fait un test et je le conserve comme ça. Le lien, il est derrière un bouton qui s'appelle flipper, pour la rubrique flippant, s'inspirer, s'enthousiasmer et réfléchir ensemble. En fait, je ne mets pas le titre de l'article. Je ne mets pas le média. Je ne mets rien. Soit visuel, je fais mon texte, ma curation argumentée avec mon décryptage. Je peux prendre des phrases que je mets en citation dans mon argumentation, mais je dis dans cet article, c'est super intéressant. L'auteur, je peux citer l'auteur ou celui qui est interviewé, mais il y a de toute façon, très honnêtement, il y a très peu de clics pour aller lire les articles.
Ouais.
De la même façon que tu mets un lien sur LinkedIn, il y a très peu de clics. Sur Twitter, je pense un peu plus parce que c'était le principe de partager. Mais une fois que tu as eu beaucoup plus de caractères pour écrire, les gens viennent pour savoir ce que tu penses, ce que tu décryptes, mais très peu pour aller lire l'info finale. C'est pour ça que faire que du partage, de mettre un lien sans expliquer ce qu'il y a derrière ou son analyse... Et honnêtement, c'est de la pollution digitale. Les gens ne cliquent pas.
Non, bien
sûr. Le taux de clic, il est inférieur à 1% si je prends LinkedIn de tous ceux qui partagent un lien.
Oui.
Cas, chez moi. Et je pense qu'il n'est pas tellement plus élevé.
Ah oui, non, il faut contextualiser.
Donc, si tu contextualises, tu démontres ton expertise, ta vision, comment tu vois les choses. Si tu mets juste un lien, tu es un pigeon voyageur, quoi, un passe-plat. Tu as mis un lien, ok, personne ne s'en souvient. Et de toute façon, les gens ne cliquent pas.
On a fait un mix un peu hybride entre les lectures et les outils, mais bon, on peut creuser le côté outils. Donc aujourd'hui, toi, moi j'aime bien poser cette question des abonnements payants que tu vois aujourd'hui, parce qu'on utilise tous plein d'outils. Finalement, ceux qui sont vraiment intéressants, c'est là où tu sors ta carte bleue.
je paye effectivement Polymail, ouais. ou messagerie.
Ouais, c'est parce 10, 12 balles par mois.
Ouais, parce qu'il est très pratique, il y a la notion de tracking, tu sais si ton client a ouvert, téléchargé, etc. Ça te permet d'avoir une... C'est pas pour stalker, c'est plus pour être plus pertinent dans tes relances et dans la façon dont tu gères ton quotidien.
Ouais. Et ça fait Calendly aussi. Hein. Polymail a une feature de type Calendly.
Il n'est pas top. J'ai cal.com pour ça. J'ai d'autres
trucs. Plus puissant.
Et aujourd'hui, j'ai Cron qui est devenu dans la semaine Notion Calendar.
Oui, j'ai vu ça.
Donc,
d'accord, oui.
Ouais,
j'ai regardé Notion Calendar. Ouais. C'est pas mal.
Qu'est-ce que je paye? Je paye Notion.
Ouais.
Alors, je paye Airtable, mais j'ai un crédit startup. Mm-hmm. Je paye Make, qui est quand même l'outil qui te permet de tout connecter ensemble et de faire tes scénarios d'automatisation.
C'est indispensable pour toi par rapport à un Zapier, je veux dire. Zapier et Make sont deux applications qui permettent de conjuguer entre elles des applications.
En fait, de connecter des API.
Ça permet de connecter des API entre
sans
elles.
Sans aligner une ligne de code.
Voilà. Et en français. C'est en gros quand je reçois ce type d'email, alors envoie tel message sur telle autre application. Ça permet de faire de l'automatisation en fait.
Ouais. C'est ça. Pourquoi Make ? Parce que c'est beaucoup moins cher que Zapier. En tout cas, au moment où j'ai fait. Je paye 10 euros ou 10 dollars par mois.
Ah oui, tiens,
Et j'ai une certaine quantité de d'opérations que je peux faire. Okay. Zapier, ça, si tu ne payes pas, déjà, tu ne pouvais pas avoir des cascades et des conditionnels à un moment donné.
Ouais.
Et puis, tu étais limité à 5 zaps, etc. Zap, ouais. Donc, je ne sais pas si ça a changé. Ça a certainement changé, mais je suis passé à Make. Je me suis formé à Make.
Oui.
Merci à la communauté No Code et aux formations No Code.
J'ai toujours eu un peu peur de Make parce que ça me semblait compliqué, mais finalement, il faut.
Ah, mais c'est plus puissant.
C'est plus puissant.
Ah ouais, c'est beaucoup plus puissant.
Ouais.
Qu'est-ce que je paye après ? Je paye Firefly. On n'en a pas parlé encore.
Non.
Firefly, c'est une IA qui se connecte quand je fais mes visios.
Ouais.
Zoom, Google Meet, Teams, qui enregistre la conversation.
Ah oui.
Qui l'a transcrit et qui me fait un résumé. Donc, c'est un truc qui est assez extraordinaire. C'est AudioPen, comme AudioPen dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Tu lui parles, il te fait une transcription et un résumé. Là, Firefly, c'est pour faire les visios et c'est assez bluffant parfois. J'ai fait des visios avec des clients, heureusement que j'avais Firefly qui m'a fait un résumé, qui m'a récupéré tous les verbatims, qui m'a permis de bien bosser la presta derrière avec pertinence sans avoir besoin de faire répéter le client. Quoi.
Alors, quand tu as Teams, quand tu as sur Microsoft, maintenant tu as ça. Tu as tout ça qui est arrivé il y a quelques.
Ouais, avec Copilot.
Ouais, tu as le Copilot qui te résume le call, tout ça. C'est pas tout le temps pertinent parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il s'entraîne sur un dataset. Souvent, tu vois, tu as 4 intervenants dans le call et il va te dire voilà, alors Philippe, il a dit ça. Tout. Mais souvent, il en oublie un. Voilà, souvent, il en oublie un. Mais oui, ça arrive, l'IA sur le.
Ouais, donc ça, c'est un que j'ai décidé de payer parce que ça m'est bien.
Et ça s'appelle
Firefly.
Firefly,
ok. Alors, tu as Natoo, N-A-T-O-O, qui est un français.
Ouais.
Une solution française.
D'accord.
Je suis engagé avec Firefly, mais je peut-être
qui fait bien les choses à Signature.
Ouais. C'est vraiment pas mal aussi.
Bon, ça va.
Promouvoir. On est quand même parmi les meilleurs en IA, les Français.
Ouais.
On dirige les grands centres d'IA. Enfin.
Number one d'IA chez Meta, c'est un Français.
Mais ouais.
Corico. Non, mais en vrai, bien sûr, ouais, c'est
on a juste
un gros leadership
plus
sur le sujet.
De mal à développer les sociétés en France. Mistral,
le scale, bien. Ouais.
Qu'est-ce que je paye d'autre? C'est des bonnes questions, tu vois, là, comme ça. J'essaye quand même de limiter.
Alors est-ce que
Doric,
qui
est mon outil pour faire mes sites, sites et blogs.
Alors, Doric, c'est un site
c'est
no code.
C'est un CMS.
Ouais.
C'est un no code, c'est un CMS. Mais WordPress était un outil no code avant l'heure. Hein.
Bah, bien sûr. Oui.
Donc.
Et des abonnements payants, mais de type, on step back un peu, mais type revue. Est-ce que tu es abonné à des blogs payants ou des revues? Non.
Absolument pas. J'ai été abonné, mais à une revue sur la plongée, ça n'a rien à voir.
D'accord. Mais t'as pas d'abonnement
Abonnement payant, non.
Ouais, ok.
J'en ai aucune. En fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas comment dire, lié ou abonné ou vraiment focus sur un média en tant que marque et que je picore l'information. Tu vois. J'ai souvent... alors, je t'ai cité des médias auxquels je suis abonné, mais en même temps, parfois, je n'ai même pas lu parce que je suis la newsletter, mais je reçois une des infos parce que j'utilise beaucoup Flint. J'ai des petits robots Flint qui m'alimentent et donc il va chercher les articles pertinents par rapport au sujet. Donc ils sont éduqués pour m'apporter la bonne info. Ou c'est mon réseau, ma veille, mon fil Twitter, mon fil LinkedIn qui va m'amener en fait une info qui me ramène sur un des médias et l'article qui m'intéresse. Donc je suis plus dans, je me suis rendu compte que je suis plus dans le jeu picore. Et je ne suis pas marié avec un média, en fait.
Oui, bien sûr. Tu croises des infos.
Ouais. Donc, je n'ai pas d'abonnement.
Ouais. Mais tu me disais tout à l'heure que tu essayes de faire en sorte qu'il y ait une multitude de sources, justement.
Ouais.
Ça, c'est une démarche journalistique. Hein. C'est de se dire de ne pas être dépendant à un seul gros canard.
Effectivement. Je fais dans mon Notion, il y a un moment donné, j'ai rajouté une colonne qui est le nom du média.
Bah oui.
De la source. Et j'ai fait une compilation. Quelles sont les sources que j'utilise le plus pour vérifier en fait que j'étais pas trop un pilleur, j'allais presque dire pilleur si tu veux, et que je ne partageais que la même chose. Donc ça, et puis ça m'a permis de prendre conscience. Et puis une remarque qu'on me fait souvent sur Fier, c'est que j'amène des sources que les gens connaissent pas. Parce que je mets vraiment un peu. C'est très éclectique en termes de sources. Alors j'essaye quand même de contrôler un minimum la véracité. Parce que parfois, tu partages des trucs, si tu ne fais pas gaffe.
Ouais, bah oui,
on essaye quand même de voir, de limiter la propagation de fake news, si tu veux. Même si parfois, même un média renommé peut le faire. Mais effectivement, tu as quand même une confiance qui s'installe dans une marque média. Mais en même temps, je vais plus picorer et essayer de diversifier exprès. Et je fais attention, justement, dans chaque édition, à ne pas avoir deux fois la même source, même si c'est deux rubriques différentes et deux infos différentes, juste pour diversifier.
Ouais.
En même temps, y a peu de gens qui cliquent et qui vont lire l'info, donc pour qu'ils aient qu'à lire les deux de la même source.
Ouais.
Mais c'est plus une forme d'éthique, si tu veux, et pour me forcer, moi, à avoir cette diversité et pas être dans la facilité.
Ouais. Hyper intéressant. Et donc là, on ferme le pan tools et lecture. Et donc tu nous as parlé un peu de tes sujets chauds du moment. Allez, à 3-5 ans, tu penses. C'est quoi les sujets pour toi qui vont rester? C'est quoi tes sujets importants que tu regardes et que tu regarderas encore dans 5 ans, selon toi?
Je pense que l'IA, dans 5 ans, on ne sait pas où on va être. Peut-être qu'il y aura une IA suprême qui va nous désinguer.
Tu penses que ça sera toujours un sujet important?
Mais je pense que ça sera un sujet qui va être important parce qu'il va s'immiscer vraiment, vraiment, vraiment partout. Alors avec un impact sur, je pense aussi, parce que dans 5 ans, on va avoir encore plus d'impact dans les métiers, l'organisation des entreprises. Et les hommes et les femmes qui, pour certains, vont disparaître parce que leur métier va se diluer ou être remplacé. Alors, pas remplacé, c'est parce qu'on ne remplace pas un métier. C'est des tâches qui vont être remplacées, si tu veux. Mais après, tu as quand même des entreprises qui pensent déjà, c'est une des news que j'ai partagées aujourd'hui. Quand vous écouterez le podcast, elle aura quelques semaines. Il y a beaucoup de patrons qui ont été interrogés. Là, je crois que c'est 14% qui pensent qu'ils vont licencier parce qu'ils vont s'organiser et mettre de l'IA. Mais en contrepartie, tu en as 54% qui pensent aussi embaucher. Tu vois, il y a ce côté physique. Alors après, entre la proportion de gens qui disent « je vais licencier et je vais embaucher », je n'ai pas le nombre de gens derrière. Mais je pense que c'est un sujet qui va être important parce que je pense qu'humainement, il faut aussi s'occuper des gens qui vont subir leur poste vis-à-vis de l'IA, comment on les accompagne. Ouais, je suis un peu centré sur l'humain, parce que sinon, on va aller dans un mur, quoi. Regarde ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs aujourd'hui. Enfin, c'est les gens qui nous nourrissent, quoi. Donc, je pense que c'est un sujet donc, qui va rester. Après, je pense qu'on va avoir de plus en plus le sujet de l'impact des outils digitaux sur nos cerveaux.
Ouais.
On y est déjà. Hein. On commence déjà à le savoir avec l'impact très négatif. Mais je pense qu'on... Personne ne fait rien.
Il y aura des études.
Enfin, moi j'ai mis mon écran en noir, mais je suis encore trop scotché sur mon, sur mon ordi et sur mon téléphone. Bon, ok, j'y suis tous les jours, c'est mon métier, mais quand est-ce qu'on on va avoir vraiment des résultats et prendre du recul parce qu'on le sait. Des gens comme Facebook, Instagram, ils savent qu'ils abîment le psychisme des jeunes filles, notamment dans l'estime de soi.
Ouais.
Ils ont fait des études internes pour le savoir et ils n'ont rien changé. Et ils ont continué le business parce qu'il y a du cash à la fin. Donc, il y a un moment donné, je ne dis pas qu'il faut légiférer, mais il y a un truc qu'il faut faire.
Ça sera
faire,
un sujet
quoi.
D'ici à 3 à 5 ans.
C'est un sujet. Quoi.
Ça va.
Parce que tous ces jeunes qui sont écoliers, étudiants, vont rentrer dans le monde du travail. Comment on va faire? Parce qu'ils vont avoir des habitudes qui sont presque incompatible, voire des capacités de concentration, des capacités à traiter des sujets. On a déjà du mal, nous. Alors, donc ça, c'est des vrais je pense que c'est des sujets qu'il faudra suivre pour voir comment ça évolue pour nous, j'ai envie de dire, en France, en Europe et dans le monde. Parce qu'on est quand même tous interconnectés là-dessus. Quoi.
Moi, j'ai un sujet... Que je vois venir, qui va être un peu la suite techno qu'on va tous vivre d'ici, entre maintenant et 5 ans, c'est comment l'IA va arriver dans nos maisons. Quoi. Comment tu vas te retrouver à avoir un 6PO Parce qu'aujourd'hui, on a Alexa, c'est rigolo, tu vois. Mais Alexa, quand elle va mettre GPT derrière, ça va calmer tout le monde déjà. Quand Apple là, va faire sa keynote en mars, je crois qu'ils vont sortir, ils vont annoncer leur propre GPT. Qui est a priori déjà hyper bluffante et qui comme il s'appelle Apple, ils vont avoir un impact dans tous les foyers. Et je pense que d'ici 3 à 5 ans, on va rentrer dans un monde où on va composer avec beaucoup, beaucoup de robots. En fait. C'est un peu le futur tel qu'on le voyait dans les années 80. Mais là, on y rentre. Et donc, nos foyers vont, je pense, être peuplés de... Aujourd'hui, on a un chat, un chien... comme animaux de compagnie, demain on aura R2D2 quoi. Et encore R2D2, c'est pas l'intelligence la plus aboutie de la science-fiction. Mais
moi, ça me ferait flipper. Et puis je vais.
Tu crois pas qu'on y va?
Alors si on y va, faut pas y aller quoi.
T'auras des robots partout.
Hein. Ouais, mais
pour les seniors, alors... pour les aider à se relever ou.
Alors attention. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. Là, dans ce que tu me dis au départ, il y a une dimension. Commodité.
Oui, non, je pense surtout.
Alors que ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir pour moi. C'est plus de l'aide.
Oui.
De l'utilité, si tu veux.
Oui.
Tu as un livre, un autre livre qui était extraordinaire aussi, que j'ai beaucoup aimé, de Seul Ensemble, de Sherry Turkle, qui a quelques années maintenant.
D'accord.
Elle a étudié deux choses, le moment robotique et les réseaux sociaux. Le moment robotique, c'est le moment où en fait l'humain va se projeter beaucoup plus sur le robot. Tu sais que les Japonais ont besoin d'un mimétisme du robot. Plus il ressemble à un humain, plus ça leur convient. Nous, ça nous fait flipper complètement.
Ouais.
Il y a cette notion de projection d'entrepreneur.
L'uncanny valley, comme on dit.
Ouais. Exactement. Dans son livre, elle relatait des expériences qui avaient été menées, enfin des études, pas des expériences, des études, où il y avait donc une mamie qui recevait sa petite fille et à qui, donc elle, quand elle avait sa petite fille, elle s'en occupait. Et on lui a donné, je crois que c'était un phoque, mais robot. Et en fait, la mamie s'est plus occupée du phoque robot que de sa petite fille à un moment donné. Donc il y a eu une projection dessus.
Ah bah oui.
Donc, et t'as des enfants. Dans l'étude, elle dit qu'ils savent que c'est un robot, mais comme le robot, il va avoir des yeux, puis tu fais un bruit, il va te regarder. En fait, même si les enfants savent que c'est un robot, ils vont essayer d'attirer son attention. Donc, projeter des réflexes humains sur les robots. Et puis après, il y a des choses qui sont un peu flippantes quand tu fais un peu, tu vois, c'est la notion de neurosciences, de psychisme, quoi. C'est où est-ce qu'on va par rapport à ça et comment on l'anticipe? Tu vois, parce qu'on parle des IA, il y a plein d'autres bouquins et études sur les algorithmes avec tous les biais humains qui sont dans les algorithmes. Ils sont cachés, tu vois. Les biais humains, tu peux les percevoir assez vite. Dans les algos, tu les perçois pas. Comment tu arrives à le gérer? Et puis, je vais rajouter une dimension qui est plutôt cybercriminalité. Plus on va être connecté, interconnecté avec des outils, comment tu gères la sécurité? Il y en a, ils sont quand même très balèzes. Je crois que c'est Benoît qui a partagé ça, Benoît Raphaël de Flynn qui a partagé ça il y a pas longtemps. Tu as quand même la première deepfake audio de Biden, alors qu'on est en pleine élection.
Ce matin,
on est aux élections. Obligé qu'on a eu Cambridge Analytica pour la première élection de Trump. Hein. Donc, même si on dit, on ne sait pas si ça a vraiment joué ou pas, là, on va arriver à un niveau. En fait, la guerre mondiale, elle est cyber aujourd'hui. T'as quand même des blocs Chine, Russie et le reste du monde. Hein. Et ça peut être très, très violent. Et c'est là où les IA ont aussi un truc, parce que les IA, la façon dont elles répondent est conditionnée au dataset d'éducation. Si tu éduques des IA avec des données occidentales, ça passe pas dans d'autres pays parce que c'est pas la bonne culture, si tu veux, pour éduquer une IA qu'elle réponde correctement. Tu vois, et donc les IA chinoises, les IA russes, les IA
indiennes, c'est complètement lié à la culture.
C'est lié à la culture au sens très large du terme. Donc,
Y a un super film que je suis allé voir, franchement, je le recommande à tout le monde. Ça s'appelle Mars Express. C'est un dessin animé français. Et tout ce dont on est en train de parler là, c'est abordé. On est en quoi, 2040-2050? C'est un thriller, c'est vraiment très sympa, dessin animé en plus, vraiment je vous conseille. Et un autre sur cette question de comment on va habiter, enfin on va vivre avec les robots, et donc ça c'est The Creator, c'est un film de SF qui est sorti. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils partent du principe que suite à un incident nucléaire, les robots ne restent plus aux États-Unis et il y a juste l'Asie qui accepte le fait que les robots assez évolués puissent vivre aux côtés de... Et donc, du coup, ça donne lieu à une culture robot asiatique. Mais bon, je pense que... Pour se projeter, effectivement, seule la fiction, le design fiction, la science-fiction aide vraiment, parce que sinon, c'est compliqué de faire de la prospective.
Alors après, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on parle encore des IA, de la techno ou pas? Parce que le vrai problème, il est quand même sur la biodiversité, le changement climatique et la capacité qu'on va avoir à vivre sur une planète avec...
De moins en moins de matériaux.
Une planète avec des ressources finies.
Oui, c'est une vraie question que j'avais abordée avec Emmanuel Vivier. Là, on est dans une espèce de hype d'avancée technologique qui va plus vite que la lumière. Mais tout ça repose quand même sur pas mal de matériaux et que les ressources sont limitées, de plus en plus limitées. Donc, si on tire comme ça la ligne dans le futur, on sait qu'il y a de moins en moins de matériaux, que ça sera de moins en moins disponible. Donc, comment décemment on peut s'imaginer un futur avec autant de technologies? C'est pas possible. En fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre dans un futur sobre, c'est ça? Plus, on va être forcé à être plus sobre technologiquement. Sera plus cher.
On n'aura pas le choix. On parle de décroissance ou on refait un podcast plus tard? Ou alors il faut relire. Non, moi ce que je conseillerais, c'est de lire Ravage. De Barjavel.
Ah oui.
Et là, peut-être une petite idée de trop de techno.
Ouais.
Tu te souviens, il y a eu une tempête à un moment donné, il y a quelques années en France. Il n'y a plus d'électricité dans les foyers.
Ouais, je l'ai connue celle-là.
On fait quoi? À la bougie? Simplement coupure d'électricité. t'as plus de chauffage, t'as plus de lumière, t'as plus de cuisine, t'as plus de frigo, t'as plus rien. On fait quoi ? Donc le technosolutionnisme, est-ce que la techno peut résoudre ces problèmes de
bah, faut pas débrancher de biodiversité ?
Il y a quelqu'un qui est hyper intéressant et inspirant à suivre là-dessus, c'est Arthur Keller, qui est un expert des systèmes complexes et qui a cette vision systémique de comment tout est imbriqué.
Et c'est la pensée systémique, ouais.
C'est... La pensée systémique de comprendre comment tout est connecté et qu'une décision à un endroit a des conséquences ailleurs. Truc très con, je vais peut-être me faire taper dessus, mais on doit passer du pétrole au non-pétrole. Donc, on passe tout à l'électrique. Ouais. Tu parlais des terres rares, les batteries, etc. Il y a un sujet, là. Le recyclage, la capacité à les créer. Enfin, donc, on prend une décision d'un truc pour en sortir, mais est-ce qu'on ne fait pas pire, quoi ? Tu vois, alors, j'ai pas la réponse et je ne suis pas assez expert du sujet, mais quand tu lis et quand tu t'intéresses, il y a quand même des trucs où on raisonne à temps très court. Donc, dans 5 ans, tu me poses une question, dans 5 ans, c'est compliqué, quoi.
Et tout de suite, là, on va dire, est-ce que tu peux nous partager tes sources, on va dire, plus personnelles pour avoir une fin un peu plus aérée, moins angoissante. Qu'est-ce que tu lis ? Est-ce que t'es très geek ? Pas du tout. Est-ce que on parlait d'Alexa dans sa maison. Est-ce que tu
non, je suis anti-Alexa. T'es anti-Alexa. Alexa, hein, j'ai pas. Je suis très Apple, mais j'ai pas acheté. Enfin, des trucs qui t'écoutent chez toi. non, mais revenir à du plus simple. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est je fais de la photo, je fais de la plongée.
D'accord, ouais.
J'ai envie de me former à plus de photos.
Plus de nature, quoi.
Ouais, de nature, de simple. Alors, plonger, c'est compliqué parce qu'il faut quand même bouger, prendre l'avion s'il faut. Tu veux aller ailleurs, mais je le fais que je vais chez des amis qui sont à Lanzarote pour plonger. Mais c'est là où tu vois la vraie nature, quoi.
Bah oui.
Enfin, qui se dégrade, hein, les fonds marins. Certains endroits sont très pollués. Mais tu vois, si demain, tu me dis t'as pas besoin de travailler, je me barre, je fais de la photo, de la plongée. Le reste, je le fais parce qu'il faut bosser, quoi. Il y a des trucs intéressants, mais je sortirai de ça mais complètement, quoi. C'est pas une finalité en soi, tu vois.
Ouais.
C'est un intérêt. Je vais même pas dire financier, c'est juste un intérêt professionnel. Mais si tu enlèves la brique professionnelle, j'ai plein de choses à faire.
C'est clair.
Donc la photo, et là, je vais chercher sur YouTube ou Instagram, tu vois, de la formation pour apprendre.
Pour apprendre la. Ouais.
Ouais, en revanche, tu vois, tous ces outils pour apprendre, c'est fabuleux, quoi.
Ouais.
Tu as un accès à une base de connaissances qui est absolument monstrueuse. Ouais,
YouTube, ça devient le première mais plateforme de formation, quoi.
Enfin, mais ouais.
Et TikTok aussi un peu, je sais pas si je me forme en cuisine sur TikTok.
Non, moi je suis anti TikTok.
Anti TikTok, ouais.
C'est déjà pas mal.
Ouais, tu vois. Photos, plongée,
et puis de la lecture.
Et puis de la déconnexion.
Déconnexion, ouais. Plutôt d'essayer de lire plus des bouquins.
Ouais.
Alors s'ouvrir à d'autres choses, peut-être que. Mais j'aime bien les bouquins sur la qui permettent d'avoir une vision un peu différente sur des sujets que tu peux traiter tous les jours, mais en fait d'avoir des bouquins qui vont être plus sur la critique d'une hype, tu vois. Eric Sadin qui est un philosophe sur tout ce qui est techno, IA et tout, est assez intéressant d'avoir toujours cette capacité de recul des scientifiques philosophes, Étienne Klein par exemple.
Ah bah, une dose d'inspiration formidable.
En fait, je trouve que ce qui nous manque, c'est d'être formé à des corpus différents, tu vois, complémentaires.
De sciences humaines.
Des sciences humaines, de la philosophie, pour pouvoir travailler et mieux comprendre ce qu'on fait dans un domaine.
Comprendre l'inno, comprendre la tech.
En fait, connecter la tech
ouais.
avec l'impact que ça a dans, la, dans, 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 dans le monde, ouais, ouais. Dans la société. Et ça, je pense que c'est ce qui a manqué,
ouais.
ce qui revient peut-être un petit peu. Mais de comprendre que développer une application pour une application, pourquoi quoi ? À quoi ça sert ? Enfin, de redonner du sens quelque part à ce qu'on fait.
Non, c'est David Naon qui est venu nous parler, donc qui est responsable réalité virtuelle immersive chez Dassault et qui est venu expliquer l'importance des sciences humaines pour interpréter la technologie, quoi. Notamment dans la VR, si t'as pas les clés des sciences humaines pour comprendre pourquoi dans ton corps, en fait, il croit ce qu'il voit, il croit ce qu'il sent dans un environnement immergé ou quand il est immergé dans... Si tu n'as pas les clés de neurosciences, de neuropsychologie, tu ne comprends pas, en fait. Enfin, t'es... Et c'est intéressant de voir que, bah, déjà, tu as ce point de vue-là. Parce que on a l'impression que c'est peut-être la brique manquante souvent dans la tech, quoi.
Au-delà de la tech, je pense, d'un point de vue global. Ouais. En fait, j'ai toujours tendance à dire, mais encore une fois... moi je vais avoir 57, donc tu vois, côté vieux con quelque part, mais je regrette, étant plus jeune, même si j'ai fait des sciences, qu'on n'ait pas des matières imposées, quelle que soit ta filière, comme la philosophie. Alors pas la philosophie pour apprendre les philosophes,
oui.
La philosophie pour être capable la philosophie de vie, de compréhension, pour prendre du recul dans une capacité d'analyse différente de ce que tu fais, tu vois, une vision différente de ce que tu fais. Et moi, j'admire des gens comme Étienne Klein qui ont cette dimension philosophique
et scientifique. Tout à fait. Ouais. Et ben c'est sur ce bon mot philosophique, scientifique qu'on va arrêter cet épisode. Et puis, je tiens à te remercier, Bruno.
Merci à toi.
Ouais, c'était vraiment très complet. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de TechSource. Salut.
Merci. Salut.
Cette émission est produite par AirParty. AirParty, c'est le réseau de podcasts des émissions des nouvelles tendances tech. Découvrez nos deux autres émissions, Tech Party, l'émission des communautés tech, et Planet Creators, l'émission sur l'industrie des créateurs et de la creator economy. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, les sources de notre invité, et recevoir par email la publication de nos prochains épisodes, direction airparty.network.